Merci aux cinq intervenants. Je voudrais excuser Brice Dubat qui a dû malheureusement partir plus vite que prévu et donc sur la table ronde et sur les questions qui vont vous être posées, mademoiselles, messieurs, vous ne serez que quatre à pouvoir répondre. Mais je pense que Aurore, peut-être, si tu reprends le fil que tu as lancé au début et que à l'aune de ce qui a été présenté, tu essaies de reprendre ça pour finalement renvoyer à notre public aussi bien qu'à nos présentateurs la possibilité d'interagir et de réagir. Comment tu le dirais, comment tu le ferais?
Moi, j'aurais une petite question pour vous. Donc, j'ai bien pris. J'ai bien pris connaissance de votre projet, etc. L'appropriation par rapport des connaissances par rapport à l'outil que vous avez présenté, elle est largement facilitée par la disponibilité tant séquentielle que par le fait du média que vous utilisez. Par rapport à une dynamique plus interactive qui est très présente quand même dans les problématiques de jeu, de serious games, est-ce que les usagers de votre application réagissent au contenu? Est-ce qu'ils échangent sur le contenu? Est-ce qu'il y a ça m'intéresse par rapport à l'interactivité et l'appropriation non descendante du message, mais vraiment le fait d'être en conflit cognitif, d'être d'accord, pas d'accord, de donner d'autres sources. Est-ce que les gens sont actifs par rapport à ça? J'aimerais avoir votre expérience.
Alors c'est une très bonne question, comme toutes les questions bien sûr. La question ici qui a été soulevée, non, ce n'est pas assez interactif. Donc pour l'instant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a l'aspect tentaculaire, j'ai cité ça comme ça, donc effectivement il y a une diffusion de l'information, mais il n'y a pas assez d'interactivité. Donc pour nous, et je pense pour Jean-Paul Dirk, qui m'a donné un gros papier que j'ai lu avant de venir, l'objectif de Facebook, c'est plutôt un outil d'accrochage, qui permet effectivement de voir de manière assez simpliste l'impact d'un projet de produit, de référence sur le public, de voir éventuellement, d'analyser quelle est la demande du public par rapport à effectivement une évaluation, une perfection des connaissances, un échange. Et donc, normalement, il faut passer vers des plateformes d'e-learning. Après, si le projet marche, c'est une façon de tester quelque part un projet et un public. Donc nous avons développé, il y a la plateforme Caroline, peut-être que vous connaissez certainement, qui est entre autres une émanation de l'UCL de notre université il y a déjà quelques années, qui est en open source, qui est gratuite, qui est une vraie plateforme, qui est disponible pour n'importe qui d'entre vous ici présents. Et normalement, c'est quand même vers là que si on veut aller plus loin, il faut passer. Maintenant, l'avantage de Facebook, c'est qu'effectivement, on peut passer des messages qui sont peut-être plus anecdotiques, plus ludiques, qui permettent, mais je vous dis vraiment, d'accrocher le public cible pour peu et de vous rendre compte aussi, est-ce qu'on a bien ciblé le bon public? Ça, c'est aussi une question qu'on peut voir. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question, mais c'est vers là qu'on va.
Merci. Par ailleurs, pour tout ce qui est les outils de formation pour jeunes médecins, il y a des projets qui sont peut-être plus avancer que d'autres en termes de développement pour les projets de conduite du diagnostic. Est-ce que vous avez mis en œuvre déjà cet outil? Et si oui, quelle est votre cible? Est-ce que c'est plutôt les externes, les internes? Et s'il y a déjà eu des tests, quel est le ressenti des apprenants par rapport à ce type d'outil?
Oui, on a mis en place plusieurs tests. Alors notre cible, elle est assez large, puisque on adapte les cas à notre cible. Donc on a fait des tests avec des externes. Ça s'est très bien passé, notamment parce que déjà ils sont tellement à l'aise avec l'interface qu'elle est complètement transparente. On est habitué à, quand on le fait tester, à montrer où il faut cliquer, tout ça. Et au bout de 30 secondes, ils avaient déjà posé plus de questions qu'on avait pu en compter. C'était très intuitif, donc ils s'étaient mis à jouer avec l'outil et voilà, explorer un peu dans tous les coins. Ils étaient déjà en train de chercher si on pouvait examiner des trucs bizarres ou poser des questions scabreuses. Enfin bon. Donc ça, c'est très bien passé. Et ils sont extrêmement demandeurs. Ils étaient, en fait, c'était des volontaires. Hein. On a demandé à un externe si on pouvait organiser un groupe de tests. Et une semaine plus tard, il avait récupéré 20 personnes. Ils ressentent le besoin de ce genre d'outils et ils adorent. En deuxième lieu, on a fait des tests avec des médecins. Des médecins vraiment expérimentés, parce que c'était un peu notre question, savoir si des médecins qui déjà n'ont pas du tout une culture du jeu vidéo, peu de culture de l'ordinateur, et des connaissances médicales, une expérience médicale importante, donc ils sont très exigeants sur le contenu, allaient se faire prendre au jeu aussi. Et ça marche plutôt bien. Voilà, ils arrivent à jouer et quand le cas est vraiment bien fait, ils se laissent prendre et ils apprennent des choses. Donc, enfin, c'est vraiment très positif. Ouais.
Oui, les usages. Enfin, c'est audacieux. Hein, c'est vrai que votre projet il est audacieux, mais c'est bien de s'y frotter. Je pense que c'est le projet d'une vie, quoi. Mais parce que c'est non, mais c'est de travailler le savoir-être en consultation. En plus, c'est très gamifié, hein, avec l'énigme, etc. Donc c'est des questions ouvertes, exploratoires. Je trouve que c'est une approche très intéressante. Est-ce que vous avez un peu là une expérience utilisateur, si j'ose dire?
Voilà, donc je vais être totalement honnête. Hein. Non, on n'a pas du tout fait tester le produit. Le produit n'est pas dans une phase qui lui permette d'être testé. Tout simplement parce que, vous l'avez dit, les situations à gérer sont extrêmement variées, extrêmement complexes. On a analysé les vidéos qui ont été faites des jeux de rôle qui servent à former les médecins à recevoir des jeunes internes. Et je dois dire qu'à chaque fois, ça nous laisse perplexes sur le métier de médecin généraliste. Parce qu'on se demande finalement en quoi il consiste précisément. Non, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est construire un univers des possibles qui soit le plus grand possible pour que, justement, ce soit intéressant, qu'il y ait un vrai enjeu au niveau de l'établissement de la relation entre le médecin et le patient. Donc, en fait, on manque encore de contenu. On a l'architecture du produit. Maintenant, il faut remplir les scénarios de façon à ce qu'ils soient suffisamment sophistiqués pour que le jeu soit intéressant. Par exemple, j'en ai pas parlé. On a parlé dans la keynote du désir parfois destructeur du joueur. Moi, ça me gêne pas que le médecin joueur humilie son patient et le fasse sortir du cabinet si ça l'amuse dans le jeu. Mais il faut que ces situations-là soient parmi les scénarios possibles. C'est ça que je veux dire dans le fait qu'on en est à un stade où il va falloir qu'on rentre des centaines de situations différentes pour rendre le produit intéressant. Et c'est ça qui va nous prendre énormément de temps. D'ailleurs, nous, on fera rien du tout. Hein. C'est les médecins généralistes avec qui on est en contact qui vont nous le faire. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Et ce n'est que quand on aura fait ça que le produit sera peut-être intéressant à être testé. Voilà.
Je ne sais pas si vous faites la même chose en France, mais nous autres, nous avons ce qu'on appelle les COS, qui sont des stations d'évaluation des connaissances. Et donc, les futurs généralistes sont confrontés pendant une demi-journée à des situations simulées qui pourraient être filmées pour répéter le message avec des acteurs, donc des faux patients. Et donc des cloches et des rythmes, toutes les 7 minutes et demie, il y a une cloche qui sonne, et il y a des stations qui durent 7 minutes et demie ou 15 minutes, et donc l'étudiant rentre dans une pièce, il ne sait pas ce qui va se passer, et il y a effectivement un faux patient, avec un maître de stage agréé académique qui est là pour valider, et un maître de stage formateur de province, si je puis dire, qui est là aussi pour valider tout ça. Ça marche très bien, et nous sommes en train de le faire comme ça, avec des faux patients, donc qui sont des acteurs, pour justement mimer toute une série de situations les plus rocambolesques, et ils ne savent pas quand ils rentrent sur quoi ils vont tomber, et en sortant, ils ne savent pas non plus sur quoi ils étaient tombés. Souvent, on ne donne pas de réponse, c'est juste le comportement qui est analysé. Et donc maintenant, nous sommes à la phase suivante, qui est de filmer toutes ces situations pour pouvoir les reproduire de plus en plus en plus grand nombre.
D'accord, effectivement, ça rejoint tout à fait.
Mais on n'est pas dans le jeu virtuel. Hein. Oui. Mais enfin, peut-être qu'en prenant des situations réelles, on pourrait les transcrire en jeu virtuel sans personnage.
Bon, par ailleurs, il est vrai que le médecin clinicien a besoin de s'approprier terriblement la problématique de la télémédecine. Est-ce que vous avez testé un peu votre... Est-ce que vous avez des cliniciens, vous avez ressenti des difficultés là, de la part des cliniciens par rapport à l'usage de la télémédecine, etc. Est-ce que vous ressentez des besoins de la part des cliniciens? Et si oui, quels sont-ils?
Et si je peux ajouter encore un degré pour être casse-pied dans le questionnement, est-ce que vous avez été amené à poser peut-être la question simple de l'usager, donc du médecin cette fois-ci, est-ce que dans une posture de type télémédecine, dans un environnement de type télémédecine, il se sent dans une posture qui peut confiner une posture de jeu justement du fait de la distanciation?
Alors, d'ailleurs,
qu'en est-il? Pas trop à la fois.
Ouais, non, mais c'est la même chose. Moi, par rapport à la télémédecine, je réfléchis à ça, etc. Je trouve ça très intéressant. Mais ça m'intéresse de savoir quel est le niveau d'implication en termes de responsabilité du télémédecin. Est-ce qu'il est calcable à celui qui est là en face de quelqu'un et qui se sent... Vous êtes généraliste, vous avez vos patients, vous vous sentez responsable d'eux, vous êtes engagé là-dedans, ils vous ont vu, vous êtes leur référence, c'est comme ça. Qu'en est-il du télémédecin? Est-ce que moi, c'est une dimension qui m'intéresse. Je n'ai pas de réponse, hein. Ça m'intéresse. Il y en a une.
Vous avez d'abord parlé des spécialités. Les spécialités chez qui ça marche sont par exemple les cardiologues, parce qu'en télémédecine, il faut avoir des outils mesurables et transmissibles. Une palpation abdominale, vous n'allez pas pouvoir faire ça en télémédecine. Par contre, donc, les cardiologues, les diabétologues, les néphrologues, tout ce qui touche à ces spécialités-là sont les plus sensibles à la télémédecine, parce qu'il y a des paramètres qui peuvent être enregistrés à distance et transmis chez eux. Pour le reste, c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a un outil indirect qui permet de voir, c'est justement toute la télémédecine en navigation en mer. Donc, il y a effectivement des possibilités de faire de la médecine à distance, et un des bons outils pour mesurer la capacité qu'on peut développer, c'est d'aller voir comment ils font pour effectivement faire de la télémédecine en mer, que ce soit sur cargo, sur voilier, etc. Et ça marche. Et là, je pense qu'il y a une source d'information colossale qu'on peut aller chercher, parce que eux font ça professionnellement depuis des années.
David,
j'ai essayé de faire une réponse synthétique parce qu'il y avait plusieurs degrés. Hein.
Beaucoup de choses là.
Alors, nous, notre expérience, elle est en fait assez simple. Il y a ce problème de démographie médicale. Les pouvoirs politiques ont essayé d'y répondre, et comme bien souvent, on fait des choses pour que ce soit vu, pour faire des annonces, mais on s'assure pas que ça réponde ni à un besoin, ni que ce soit efficace. Et c'est un petit peu, je veux pas cracher non plus dans la soupe, puisque c'est eux qui nous financent sur ce projet-là, c'est un peu ce qui s'est passé quand même avec l'expérience de télémédecine qui a été menée par le Conseil Général, où en fait on a donné des mallettes ce qu'on appelait les e-valises, qui avait donc un ECG portable, une webcam, un spiromètre, enfin tout un tas de choses. Et on l'a donné donc à ces médecins de la RPI en disant, voilà, cette mallette-là, elle est connectée à un réseau d'experts du CHU, et donc si vous avez besoin, vous pouvez déclencher, etc. Bon. Probablement qu'il y a déjà eu, il n'y a pas eu un accompagnement suffisant. Deuxièmement, les médecins qui sont dans l'arrière-pays jusqu'à il n'y a pas très longtemps, au niveau de leur moyenne d'âge, génération ni la Y, ils ont connu les 33 tours quoi pour écouter la musique. Donc c'était, je ne peux pas faire de jeunisme non plus, mais c'est pour expliquer un petit peu.
Ça t'a fait mal.
Non, mais j'écoute encore des 33 tours, c'est pas le problème. Mais il y a une transition générationnelle là-dessus. Et c'est pas simple d'aller injecter quelque chose à quelqu'un qui n'a pas une culture numérique derrière. Donc déjà, et qui jusque là a trouvé ses propres solutions, et même si on lui dit que les solutions qu'on lui amène sont plus simples à mettre en œuvre ou rendront service à leurs patients, ça peut juste lui paraître plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'au niveau du projet déjà. On investit sur les prochaines générations. On n'est pas sûr que dans la formation continue, ce soit forcément un investissement très cost-effective, on va dire.
Pointer les besoins.
Voilà.
Pour les faire émerger.
Et donc, en fait, l'idée, c'est aussi, quand on réfléchit à l'histoire des cas, c'est aussi compliqué d'élaborer des scénarios avec des gens qui sont en situation d'isolement, mais qui n'ont pas idée des potentialités de la télémédecine. Donc effectivement, l'idée de la médecine maritime, c'est une très bonne idée, je pense. Hein, donc, il faudra qu'on aille voir un peu plus de ce côté-là. Donc il y a ça. Après, l'histoire de la distance que peut avoir le médecin qui est derrière son écran et qui va voir un patient en face, bon, c'est ce qui s'est passé avec les téléconsultations de psychiatrie. Alors c'est quand même très particulier et il n'y avait pas d'autres ressources. Les médecins qui étaient là-bas se sentaient un petit peu dépassés. Et donc là, il y avait eu un besoin et c'est comme ça que ça a pu marcher un peu mieux, certainement. Donc après l'investissement qu'avait le psychiatre, quand il sait que c'est le seul recours pour le patient en face, il y est. Après une consultation à trois avec une télé-expertise, bah, la responsabilité, forcément, plus on est, plus elle se dilue. Ça, c'est comme à l'hôpital, hein. Donc quand il faut chercher qui est-ce qui est responsable, parfois c'est compliqué. Mais on a la chance peut-être en libéral d'être plus en relation directe, si on est plus sur une relation duale. Et donc là, c'est peut-être un peu plus facile, quoi, donc dans ce cadre-là. Mais n'empêche que c'est comme quand vous faites des téléconférences. On a toujours un qui va bloquer sa caméra, qu'on va appeler, qui répond pas parce qu'il est en train de faire ses mails, etc. C'est ces problématiques-là qu'on veut aborder justement dans cet enseignement et savoir finalement de combien de temps peuvent durer ces sessions-là. Est-ce que vraiment on peut dépasser 20 minutes d'investissement en termes de temps? On veut essayer d'évaluer les comportements. Si ça sert à rien de faire une consultation au-delà de 30 minutes parce qu'après les gens sont plus investis, par exemple. Après, sur l'histoire de la responsabilité, vous avez vu, j'ai tout retenu. Hein. Sur l'histoire de la responsabilité, les seules choses qui sont légales en termes d'actes de télémédecine, pour l'instant, c'est la téléprescription. La régulation par le 15, par exemple, quand vous appelez le 15 et qu'ils vous disent, bah, vous prenez deux efferalgans et puis vous attendez, vous voyez, ça va mieux, ça va pas mieux, vous me rappelez, ou sinon demain vous allez voir votre médecin généraliste. Ça, c'est un acte qui est réglementaire et c'est enregistré, et donc il y a une responsabilité du téléconsultant de l'autre côté. Ah, de responsabilité morale, vous voulez dire? Ah, bah. Voilà. Bah, ça, justement, ça va faire partie un petit peu de notre évaluation, quoi. Hein. Donc.
Que les données soient disponibles et qu'elles soient exploitables. Par exemple, le néphrologue, en effet, il y a un iono, il peut monitorer des choses. Le diabétologue, il y a un carnet glycémique, il peut monitorer des choses. Mais que les données soient disponibles et que le travail soit faisable, ça ne traduit pas l'engagement moral du prescripteur. Moi, vous voyez ce que je veux dire? Même si on peut faire des choses, moi, en effet, on peut régler des diabètes sur les carnets. Hein.
Après, mais, par rapport à ça, alors je ne dis pas que l'engagement moral est toujours lié à ce dont je veux parler, mais il n'y a pas toujours le modèle financier derrière ce qui suit en télémédecine. Ce qui existe actuellement, c'est des plateformes où vous allez, en tant que médecin généraliste, par exemple pour les télé-ECG, vous allez payer 50 euros tous les mois. Et à chaque fois, vous allez avoir un petit dispositif qui va télétransmettre l'enregistrement. Et il y a quelqu'un dans un centre d'interprétation qui va vous rappeler, qui va vous dire, ben voilà, le patient, il a ça, ça, ça. Il va vous demander quelques antécédents. Avec un peu de chance, c'est un cardiologue qui est au bout. Mais bon, même ça, des fois, c'est pas très évident. Et puis, il va vous donner une conduite à tenir. Mais là, le modèle économique existe, puisque en fait, c'est le médecin qui paye. Mais après, lui, cote l'acte. Voilà la relation en termes d'investissement et de responsabilité. Ça va venir. Pour l'instant, c'est pas encore très clair.
Alors, peut-être que sur cette première salve, en tout cas, de questions et d'échanges ici, juste entre nous et entre experts, en tout cas, puisque ce sont eux qui ont planché devant vous, comment maintenant est-ce que la salle éventuellement aurait des questions, des réactions, voudrait interpeller, intervenir? Je vois déjà des mains qui se lèvent, c'est très bien. Pascal, là-bas, si tu peux. Parce qu'il faut bien que le président de la conférence serve à quelque chose.
Oui, pour la télémédecine, il me semble avoir vu il y a quelque temps qu'en Inde, c'était quelque chose de tout à fait pratiqué, qu'ils aient de la télémédecine pour les US, c'est-à-dire qu'ils récupéraient en temps réel l'électrocardiogramme de riches Californiens et qu'ils veillaient au grain, quoi, et que c'était un business qui marchait très très bien et qu'il y avait des cliniques qui se montaient avec des téléconsultants qui passent leur temps à dépouiller en fait des colonnes de chiffres et à poser des alertes.
Pays du Golfe. Pays du Golfe, ça marche comme ça. Et c'est un business florissant.
En Suisse aussi, pour parler plus de choses européennes, il y a un modèle, hein, je ne me rappelle plus le nom, mais qui existe déjà. Mais souvent, en fait, c'est les patients qui souscrivent, Medgate, voilà, merci, qui souscrivent, en fait. Hein, ce n'est pas un partenariat avec votre médecin traitant du CRU qui va faire appel à ça. Alors, bon, c'est à ma connaissance et dans la littérature On n'a pas de mesure d'impact, pas assez en tout cas.
Il y a Monaco aussi.
David ?
C'est une question qui m'est venue à l'esprit avec la présentation de Brice, mais comme il est parti, mais je pense que ça peut être une question pour tout le monde. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que le participant, une fois qu'il se rend compte des conséquences de ses actions, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, il s'est approprié la leçon? Quelle profondeur? Et surtout, comment est-ce qu'on peut le savoir?
Moi, je trouve que c'est en effet intéressant dans les scénarios de jeu qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise réponse et qu'il y ait comme ça d'analyse de conséquences d'actes qui génèrent un conflit cognitif en fait, hein, qui génèrent de l'interrogation, un changement de cadre. Ils apprennent des choses en termes d'expérience, etc. Mais quand même, le serious game, il est dans une intention de passer un message. Est-ce que à ce moment-là, s'il y a beaucoup de conflits cognitifs et beaucoup de choses qui sont ni blanches ni noires, ni est-ce que le message est clairement passé et quel est-il? Parce que les gens soient perplexes, c'est une bonne chose. Après, quand on génère un conflit cognitif, c'est bien qu'il y a un moment de flou, mais il faut quand même que la pensée elle se reconstruise avec l'acquisition de cette connaissance, quoi, pour en faire quelque chose. Et si, moi, je trouve que si peut-être il y a trop de conflits cognitifs, parce que les choses elles sont complexes et très complexes, est-ce qu'on perd pas en transmission de messages? Je sais pas.
Qu'est-ce que ça vous fait comment est-ce que vous réagissez à cette invitation, ce questionnement de David Krukol?
Alors, je dirais que nous, comme notre objectif principal, c'est le travail du raisonnement clinique. Ce qu'on va faire, dans une consultation de médecine générale, souvent on a peu de résultats finalement immédiats. Et donc nous, ce qu'on essaye de mettre en évidence, c'est comment un interrogatoire, selon la façon dont on va le mener, selon la façon dont on va mener son raisonnement, on va arriver plus ou moins facilement à une conclusion satisfaisante. Éventuellement, on arrivera toujours au résultat, mais certains vont y arriver suite à un déroulement assez logique et qui va se mettre facilement en place, et certains vont avoir besoin d'explorer dans tous les sens et passer une demi-heure. Donc voilà, c'est peut-être là où nous, on va mettre le médecin face à son raisonnement.
J'avais juste, si je peux me permettre, Bernard, tu es en forme. Bernard Charlin, hier, a conduit un atelier avec Jean-Paul Fournier et Louis Cibert sur le TCS et a conclu la journée de test de concordance de script et a conclu la journée sur l'utilisation du TCS à visée formatrice. Je pense que c'est effectivement important. Les experts hier ont reconnu cette logique, en particulier donc sur l'exemple, finalement, quand je voyais la présentation de nos collègues, c'était finalement la modalité de passation était formatée selon un questionnement particulier, mais au final, on avait le positionnement de chacun, et donc c'était sur le comportement. Tu peux peut-être en dire un mot, Bernard, juste... Non, parce que les problématiques, finalement, ont parfois juste un format différent. Hein, c'est
un format de test, on met les gens en situation d'incertitude et on leur propose une hypothèse ou une option à prendre dans cette situation d'incertitude. On amène une nouvelle donnée et le participant doit décider de quel est l'impact, les conséquences de cette nouvelle donnée sur le statut de l'option. Alors dans un raisonnement, on est tout le temps en train de faire ça, on assume que dans un raisonnement, on est tout le temps actif, on a tout le temps des hypothèses en tête, on a des buts, on veut progresser. Donc la nouvelle donnée, est-ce qu'elle nous fait progresser ou elle nous fait diminuer la probabilité de cette hypothèse? Et puis la nouveauté, donc ça c'est un format d'évaluation qui est de plus en plus connu dans le monde et de plus en plus utilisé. Mais là la nouveauté, c'est qu'on l'utilise dans un but de formation, c'est-à-dire que la deuxième particularité, c'est quand on est en contexte d'incertitude, donc il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse, et donc pour décider de la grille de correction, on fait passer ça à 10 ou 15 experts du domaine, et les participants ont un score qui reflète le nombre d'experts qui ont répondu comme eux. Donc ces modalités permettent d'évaluer des choses qu'on ne faisait pas avant et de le faire avec beaucoup de fidélité, Et là, la nouveauté qu'on amène, c'est qu'on dit aux experts, quand ils répondent, pouvez-vous justifier votre réponse? Et le participant, quand il fait son test, il répond, il voit comment il se situe par rapport aux experts et il voit surtout la justification des experts. Et donc, il a un feedback immédiat sur sa performance. Donc, ça ouvre certaines possibilités, mais c'est des mesures ponctuelles, alors que vous êtes plus intéressé sur un processus en plus complet. Donc ça peut être un instrument complémentaire qui vient enrichir ce que vous faites, votre groupe.
Merci Bernard.
Je me permets de parler un petit peu sur l'ancien en question. Donc est-ce qu'il faut avoir une question, une mauvaise question ou un pire? Je pense que c'est très important que le joueur permette le joueur de jouer sans arrêt, donc c'est-à-dire sans lui empêcher par les alertes qui convoient le message que pour le joueur. Mais c'est aussi essentiel que le joueur pour convoie le message. Donc, je pense que c'est très important d'avoir un indicateur dans le jeu qui permette au joueur de savoir s'il joue bien ou pas. Sinon, comme ça, à la fin du jeu, le joueur ne comprend rien. C'est pas le principe pour un serious game. Donc, sur notre design, on a un indicateur, donc un jauge pour le stress qui montre très clair si le joueur a une bonne performance ou pas. Aussi, à la fin de chaque phase, on a un petit résumé sur ce qu'il fait, le joueur. Donc, je pense qu'il faut bien trouver une balance entre ludique et aussi les aspects pédagogiques.
Est-ce que d'autres questions, d'autres réactions, d'autres commentaires? Je vois que Julien se prépare, puisque si les questions, commentaires, réactions manquent, peut-être que je vais demander à Aurore de faire une petite conclusion et ensuite on passera à notre prochain élément d'agenda. Mais c'est pas une obligation, la conclusion, ça donne l'impression en fait de clore le débat, alors que là le débat ne fait que s'ouvrir. Le débat ne fait que s'ouvrir. Tu as un micro si tu veux, Aurore. Oui. Et puis ça a été dit dans deux des papiers, alors je vais citer un grand médecin du début du 21e siècle, Gregory House, de point ouvrir les guillemets, tout le monde ment.
Non, mais il y a quand même dans beaucoup de travaux qui ont été présentés là, la valorisation de l'erreur, quoi. L'enrichissement que peut apporter l'analyse de tout ce chemin qu'on peut faire quand on est dans l'erreur. Et d'ailleurs, il y a un proverbe, je ne sais pas s'il est chinois, qui dit « Tu as atteint ton objectif, dommage, tu as raté tout le reste ». Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et dans le serious game, voilà.